Radio Esperanza décolonise les ondes.
Radio Esperanza.
Bonjour chers auditeurs, auditrices, ici Radio Esperanza en direct, la radio éphémère du festival Esperanza. Nous sommes ici en direct du coup sur la radio universitaire namuroise, 48 FM, la radio universitaire de Liège, Radio Campus, Radio Panique à Bruxelles et la RQC qui nous rediffuse à Moucron. Je suis ici avec Zou qui va co-animer cette discussion.
Bonjour Aline.
Salut. Zou, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce dont on va parler aujourd'hui ?
Eh ben écoute, en fait, cette année, la Radio Esperanza est située sur le village des possibles, au cœur du festival. Et justement, le sujet en fait de ce village cette année, c'est la montée de l'extrême droite. Et le slogan, c'est « Résiste, milite, existe ». Et du coup, on s'est dit, qui de mieux que nos voisins, voisines de ce village, c'est-à-dire les fronts antifascistes belges, pour parler justement de la question du militantisme, de la montée de l'extrême droite, notamment. Donc voilà, on va explorer tout ça ensemble. Alors, qui est là ? Alors, qui est là ? Alors, on a du front de Namur, on a Damien. Bonjour,
oui,
Damien.
Enchanté.
Du front antifasciste de Luxembourg, on a Domi.
Hello.
Bonjour. Du front de Bruxelles, on a Amar.
Bonjour à tous.
Bonjour. Et de Verviers, on a Steph.
Salut.
Salut.
Super, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, pour commencer cette discussion, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment ça se passe sur le festival, du coup, votre stand, ce que vous y présentez et comment ça se passe la rencontre avec le public ces deux premiers jours ? Qui se lance ?
Moi, je veux bien commencer parce que j'étais là hier et puis aujourd'hui. Et c'est vrai que on a vraiment un engouement qui fait plaisir à voir, de se dire, ben voilà, il y a des gens qui sont là, qui ont envie de résister, de militer et d'exister. Et surtout, on a sur le stand en fait plein de modules en fait qui sont animés par différents collectifs, parce qu'il faut quand même dire que sur le stand il y a la coordination antifasciste de Belgique et qui représente en fait plein d'antifac, des spécificités différentes. On a Bruxelles, il y a Liège, il y a Namur, il y a Luxembourg, il y a Verviers, il y a Mons. Et donc je pense que cette pluralité qu'on peut justement visibiliser aujourd'hui offre en fait à tout un chacun qui connaît de près ou de loin la lutte antifasciste peut se retrouver en fait par des tas de modules d'animation qui sont présents sur le stand, mais aussi des publications, des jeux un peu plus fun, entartrés, notre ami Gloob, des choses comme ça. Il y a plein de petites choses pour rester quand même dans quelque chose de festif, mais qui est une lutte en tout cas qu'on a tous à cœur de défendre.
Et quel est le public quand il vient vers vous ? Il vient avec des questions, quel est un peu justement l'état d'esprit ? Alors là c'est un peu une moyenne, mais quels sont les types de rencontres que vous avez ?
Les rencontres qu'on a pu avoir hier après-midi, aujourd'hui, c'est des gens, on a Esperanza quand même, donc on a un public, on peut dire quand même plutôt de gens convaincus. Mais moi ce qui m'a étonné, c'est aussi d'avoir des gens qui disent « Ah tiens, il y a des fronts un peu partout, ah tiens, c'est génial !» Parce qu'on est évidemment conscient qu'il y a énormément de choses qui se font à la capitale, et donc c'est très bien comme ça. Mais des gens aussi qui nous ont dit « Ah ben tiens, vous avez des fascistes, au fin fond du Luxembourg ou dans des petits villages autour de Namur. » Et donc pour nous, c'est super chouette aussi d'avoir des gens qui se disent « Bah oui, donc ça c'est une des premières réactions, moi je trouve, que j'ai pu observer, c'est de se dire « Bah tiens, la lutte antifasciste, elle vit partout. » Et la deuxième chose, c'est plein de gens, et ça je trouve que c'est vraiment motivant pour nous, qui disent « Waouh quoi, vous êtes là !» Et donc ça, je trouve que c'est... je sais pas pour les autres, mais en tout cas, je trouve que c'est hyper motivant, ouais. En tout cas, d'avoir des gens qui disent, vous êtes là. Bon, alors il y a l'aspect goodies, il y a des stickers, des choses comme ça. Ok, mais c'est pas ça qu'on a envie de défendre. Nous, ce qu'on a vraiment envie de défendre, c'est les valeurs qu'il y a derrière, et de sentir qu'il y a plein de gens qui ont envie ou de nous rejoindre et qui nous posent des questions aussi par rapport à comment nous rejoindre, quoi. Parce qu'il y a plein de sensibilités, mais ça, je suppose qu'on va en débattre avec les camarades.
Ouais. Ouais, moi, j'ai un ressenti pareil. On n'est pas. Dans un stand où on va convaincre, faire de ce travail-là, parce qu'il y a vraiment une envie de se mobiliser, et j'ai l'impression qu'il y a une évolution aussi ces dernières années des gens qui ont toujours envie de s'informer, mais surtout de passer à l'action. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a plein de gens aussi qui font déjà des choses, qui sont pas forcément organisés dans un collectif antifa. Mais...
Ouais, tout à fait.
Et c'est de pouvoir aussi avoir des contacts et que les personnes puissent laisser leur adresse mail ou d'autres moyens pour les contacter, qu'on puisse les intégrer au collectif. Et donc voilà, ça c'est le plus important. Enfin, des choses les plus importantes.
Alors Domi, là pendant que tu expliquais un peu vos rencontres avec le public, tu as parlé justement de plusieurs sensibilités. Est-ce que tu peux un peu expliquer, les autres, bien évidemment aussi, quand on parle d'un front antifasciste, on parle convergence des luttes, on parle... c'est composé, ça se compose comment un front ? Est-ce que vous pouvez un peu plus expliquer le terme ?
Y a déjà différentes structures. Donc il y a les fronts qui sont en fait des groupes de gens qui vont se retrouver dans ces structures qui des fois appartiennent déjà à d'autres organisations militantes ou politiques. Et donc forcément il va y avoir des fois des divergences de stratégie, de tactique, etc. Mais le fond principal reste qu'on est aligné sur lutter contre l'extrême droite et la fascisation de la société. Et également en fait ces structures se retrouvent à différentes échelles. Là on parle de fronts régionaux, mais en fait il faut savoir que tous ces fronts régionaux sont regroupés sous le nom de la CAB, qui est donc la coordination antifasciste de Belgique, qui essaie de coordonner tout ça au niveau national. Donc forcément, quand on monte encore au niveau national, il y a encore plus de divergences, mais c'est important, c'est ça aussi qui nourrit la lutte. Et comme tu parlais de convergence des luttes, je pense qu'aujourd'hui, on peut retrouver dans les fronts antifa, on va retrouver des organisations qui luttent pour la Palestine, qui luttent pour les droits féministes, etc. Et c'est vraiment ça qui est important, de pouvoir ouvrir la lutte antifasciste à tout le monde, que ce soit des individus tout seuls qui ont envie de s'engager, ou bien d'autres organisations qui existent déjà, qui veulent, sur un point spécifique, l'antifascisme, se retrouver avec d'autres.
Oui, quand on dit divergence, pour moi, elle est à deux niveaux. Comme tu l'as dit, c'est au niveau organisationnel. Il y a des gens qui vont s'organiser de façon différente, avec des stratégies différentes, avec des cultures militantes différentes, etc. Et c'est important pour nous que toutes ces façons de s'organiser puissent trouver leur place dans des fronts. C'est pas toujours facile, il faut mettre de l'eau dans son vin, il faut arriver à se parler. Et puis aussi une divergence idéologique un peu plus. Voilà, dans les fronts antifa, on retrouve des gens, des socialistes, des anarchistes, des communistes, des trotskistes. Enfin, il y a un peu plein de gens comme ça qui vont pas être d'accord exactement sur comment on veut la société au bout. Mais par contre, il y a quand même cette base commune de, on sait bien que si le fascisme passe, le fascisme fait pas de cadeaux, ne fait pas de place. Et pareil sur les luttes féministes, antiracistes, anticoloniales, etc. Ces luttes-là, sous un régime fasciste, on ne peut pas les mener comme on les mènerait ailleurs. Enfin voilà, donc c'est vraiment cette prise de conscience qu'on a tous des intérêts communs. Et évidemment, on a tout le loisir de s'engueuler en dehors, mais c'est pas notre but quand on compose un front ou en tout cas une coalition antifasciste.
Oui, et je pense qu'une des difficultés qu'on peut rencontrer aussi, c'est la sensibilité qu'on peut avoir à l'intérieur même d'un front, avec des personnes qui ont peut-être envie d'être plus dans l'action, d'autres qui sont peut-être plus dans la réflexion, et comment est-ce qu'on fait ? On est un peu comme un funambule quand on essaye, c'est quand même souvent des collectifs qui sont des collectifs citoyens, donc apprendre à s'autogérer, c'est pas inné, et donc ça paraît très beau sur papier, mais c'est pas toujours évident, et donc je pense que ça c'est important aussi, c'est comment est-ce qu'on écoute en fait ceux qui ont envie vraiment, et qui ont envie d'être dans la rue, qui ont envie d'action vraiment très très concrète, et puis comment est-ce qu'on fait de la place aussi à ceux qui sont parfois derrière ou moins dans la lumière, mais qui ont envie vraiment de se poser des questions, des réflexions, etc., sur comment on fait avec toutes ces différences. Et puis aussi, parce qu'on voit quand même qu'il y a quand même pas mal de nouveaux collectifs, je pense par exemple à Mons, je pense à Charleroi, Luxembourg, nous, c'est une histoire avec un autre, Verviers aussi d'ailleurs, c'est une histoire avec un autre collectif. Avec un autre collectif qu'on avait avant, qui était le collectif des femmes qui l'ouvrent, où on faisait partie de la plateforme Stand Up. Et donc, c'est suite à ça, en fait, que notre collectif, mais on se rend compte, en fait, qu'il y a plein de gens qui savent pas par quel bout commencer, qui ont envie de, et qui se disent, nous, on a envie de lutter contre le fascisme, mais encore, qu'est-ce qu'on met derrière le mot fascisme? Parce qu'on peut aussi nous dire, à contrario, mais du fascisme, en fait, actuellement, il y en a pas, ou qu'est-ce qu'on met comme définition? Et je pense que si on devait même faire le tour de tous les fronts, on n'a peut-être pas tous la même définition du fascisme, etc. Déjà, même à l'intérieur, de nos petits collectifs et de nos petits fronts, on n'est pas toujours d'accord. Et donc pour l'extérieur, mais comment est-ce qu'aussi on fait pour toucher ceux qui sont convaincu qu'il faut lutter, mais comment on commence pour engager la lutte tous ensemble. Et je voulais juste revenir aussi par rapport au combat, par exemple, pour la Palestine. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur aussi au Luxembourg. Et on voit aussi à quel point un gouvernement d'extrême droite, quand il est au pouvoir, c'est vraiment quelque chose qu'on peut décortiquer et qu'on peut se dire, mais en fait, quand on a ce genre de gouvernement au pouvoir, mais les dégâts que ça fait, je pense qu'on ne peut pas, pour le moment, lutter contre le fascisme et ne pas prendre, en tout cas, ces considérations. Et pour nous, ça... Ça nous tient à cœur vraiment.
Tout à fait. Mais je vais profiter un peu de ce moment en fait, de ce que tu as dit, pour peut-être clarifier justement, parce que là on parle de fond antifasciste, donc de la fascisation, du fascisme, et on parle aussi parallèlement de la montée de l'extrême droite. Est-ce que vous voulez un peu clarifier ces termes ?
Moi, je peux le faire. Après, comme on l'a dit avant, je pense qu'il y aura des désaccords là-dessus. Moi, je vais donner ma définition à moi. Déjà, pour clarifier la droite, l'extrême droite, pour commencer par là, selon moi, en fait, la particularité de l'extrême droite par rapport à la droite, c'est surtout son rapport à l'autre et son rapport au fait de trouver un bouc émissaire pour justifier les problèmes de la société. La droite va appliquer un programme libéral qui va mettre des mesures pour défendre l'intérêt de la bourgeoisie, du patronat, et en fait qui va toucher tout le monde dans la société, tous les travailleurs, mais bien évidemment, les personnes précarisées sont toujours les premières touchées. Alors que l'extrême droite, à minima dans son discours, va essayer de viser des franges spécifiques de la population. Que ce soit les minorités de genre, que ce soit aujourd'hui avec l'islamophobie, les personnes arabo-musulmanes, etc. Donc ça va être la différence fondamentale, c'est l'approche qu'elles vont avoir sur comment elles vont présenter leur programme. L'extrême droite va en général essayer de flirter avec la classe ouvrière un peu partout dans le pays en disant le problème économique, c'est la faute de l'autre. Et donc c'est vraiment ce rapport à l'autre qui, selon moi, est assez structurel de l'extrême droite. Par rapport au fascisme maintenant, l'extrême droite, c'est pas le fascisme, ça, il faut être très clair là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, on a plein d'endroits où l'extrême droite est au pouvoir, Giorgia Meloni en Italie, etc., mais où c'est pas du fascisme. Alors clairement, l'extrême droite a également dans sa composante, surtout quand il arrive au pouvoir, à vouloir limiter le rôle de l'État, en tout cas d'un point de vue social, et surtout essayer de pousser à avoir un État de plus en plus autoritaire. Nous, on va parler de bonapartisme. C'est-à-dire en fait un rapport où on a un État qui va essayer de bypasser les corps intermédiaires, les médias, l'Assemblée nationale, et avoir un sorte de leader qui est directement, soi-disant, en contact avec la population parce qu'il a gagné une élection. Mais le bonapartisme, c'est pas encore le fascisme, parce que le fascisme va vraiment avoir à un moment une base de violence. Une base de violence où en fait, il va y avoir des milices violentes qui vont aller attaquer le mouvement ouvrier, qui vont aller attaquer les syndicats, qui vont aller vraiment à la confrontation physique dans les manifestations syndicales, dans les manifestations pour le droit de tout le monde. Alors, il y a des éléments fascisants aujourd'hui, on le voit partout. Les ratonnades, par exemple, qu'on a pu voir en Espagne récemment contre les immigrés, il y a des éléments fascisants. La tentative de prise de Capitole lors de l'échec de Trump à la précédente élection, c'est une tentative de fascisation aussi, où il y a clairement une volonté par la violence de prendre le pouvoir et de contrecarrer la démocratie bourgeoise. Mais
la marche sur Bruxelles du Vlaams Belang, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'était oui. Aussi une tentative de faire pression en allant visant le Parlement. Oui. Donc on a eu aussi une espèce de coup de force comme ça des forces d'extrême droite qui ont à un moment complètement bypassé le rôle démocratique. Donc voilà, je pense que c'est un événement qu'il ne faut pas mésestimer en Belgique.
Tout à fait. Mais je pense que c'est des exemples de ce qu'on appelle ça de fascisation. Après, personnellement, je ne pense pas que le fascisme va réussir à prendre le pouvoir dans un avenir proche. Je pense qu'on a des risques profonds d'avoir de l'extrême droite qui applique, comme je dis, une forme d'autoritarisme qui va être présent. Et il ne faut pas le négliger, hein, ça va être très violent pour plein de couches de la population. Mais ce ne sera pas, selon moi, en fait, les composantes socio-économiques aujourd'hui de la société ne permettront pas vraiment d'avoir un régime fasciste, en tout cas en Occident. On peut discuter pour des endroits comme la Palestine, avec Israël, où il y a potentiellement une tendance fascisante beaucoup plus profonde. Mais voilà.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'avais aussi l'idée que, enfin, dans ma vision, c'est qu'aussi l'extrême droite était quelque chose de purement politicien, politicienne, et tandis que le fascisme peut avoir quelque chose de beaucoup plus social ou quelque chose qui est purement intégré dans les affects et dans la pensée des gens, et donc à laquelle les personnes vont être côtoyées beaucoup plus facilement et dans leur quotidien, tandis que l'extrême droite est une sorte de bête politique, enfin. Surtout une bête politique, quoi. Et ça aussi, je vois une différence par rapport à ça. Donc, c'est le fascisme qu'on peut vraiment croiser dans la rue et qu'on peut être affecté dans notre corps, et tandis que l'extrême droite a plus quelque chose de politicien quoi, avec des
institutionnel,
voilà, c'est ça, voilà, le mot.
L'extrême droite a un programme, alors voilà. Que le fascisme c'est plus un style, on parle d'esthétique, voilà. Fasciste aussi, et de cet attrait du leader fort qui va revenir à un passé fantasmé, et donc il y a une forme, oui, comme tu dis, de sentiment,
une culture,
mais je pense que c'est important de se dire, quand tu dis on n'est pas prêt d'avoir un régime fasciste, etc., il y a quand même ce que sentent beaucoup de gens, je pense, c'est quand même une fascisation, une extrême droitisation. Et donc, quand on met ces termes en mouvement, en évolution dans le temps, on sent qu'il y a quand même une poussée vers un certain modèle de société ou certains modèles de non-société, je ne sais pas comment dire. Et donc, quand on parle de fascisation, d'extrême droitisation, ça permet de remettre en contexte. Et donc, ce contre quoi on lutte, ce n'est pas contre le fait d'arriver au dernier stade qui pourrait dire un jour « Ah ben voilà, maintenant c'est un régime fasciste, maintenant on a perdu ». Non, on lutte au quotidien pour faire valoir des valeurs de liberté, de démocratie, et c'est une lutte incessante. On est le camp révolutionnaire pour certains, enfin la plupart des gens qui composent le mouvement antifasciste. Dans le mouvement antifasciste, il y a aussi des gens qui ne sont pas révolutionnaires. Donc on est quand même le camp des libertés, de l'ouverture, de la rencontre. Enfin, voilà, on défend des valeurs qui sont battues en brèche par les pouvoirs aujourd'hui et par des gens qui essaient d'accéder au pouvoir. Et,
merci, c'est déjà plus clair. Mais une question, est-ce que du coup, tous les citoyens ne ressentent pas la fascisation de la même manière? Je suppose qu'une personne racisée ou une majorité blanche, certains peuvent ressentir une grande fascisation de l'État ou de l'environnement, tandis que d'autres ne subissent pas les répressions, et du coup on ressent quand même, tous les citoyens belges je suppose ne ressentent pas la même chose par rapport à la fascisation.
Moi je pense justement c'est une différence entre l'extrême droite et la fascisation. Je pense que quand on est vraiment au niveau de la fascisation, ça atteint tout le monde de manière beaucoup plus violente, parce que le rôle de la fascisation, c'est de casser le mouvement ouvrier. Donc c'est de casser les revendications même sociales, socio-économiques qu'on peut retrouver dans les syndicats, qu'on peut retrouver partout. Donc ça va atteindre tout le monde. Alors que l'extrême droite, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, va viser des franges plus spécifiques de la population. Aujourd'hui, ça va être les personnes trans et les personnes arabes musulmanes. C'est un peu les deux, on va dire, victimes principales aujourd'hui de l'extrême droite classique. Et donc ça va être un peu ça la nuance. Alors bien évidemment, comme partout, sous le fascisme, les plus précarisés seront toujours les premiers touchés, etc. Mais un peu dans la différence de dialogue, c'est un peu la différence de cible entre le fascisme et l'extrême droite, c'est ça. Après oui, c'est clair qu'aujourd'hui, avec l'extrême droitisation et la montée des valeurs d'extrême droite, c'est clair que oui, toute personne précarisée, racisée, opprimée, va être touchée avant, comme vous dites, les classes blanches et autres.
Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et aussi dans le fascisme, c'est tout le monde est atteint dans son individualité, beaucoup compliqué à dire. Et donc du coup, qu'on soit blanc ou noir, on va être attendu de se comporter d'une telle manière. En tout cas, on va devoir respecter certains codes, l'homme, la femme, toutes des choses comme ça. Et donc bien sûr aussi les identités de genre qui vont être limitées et tout ça. Et donc du coup, tout le monde va être touché. Maintenant, il y aura une violence qui sera moins pour certaines personnes que pour d'autres, mais effectivement...
Parce qu'on est bien d'accord, dans le fascisme, on parle aussi de l'ennemi intérieur, et donc en fonction aussi, je suppose que, on ne ressent pas la même
tout
façon.
Vous avez parlé d'évolution, vous avez parlé d'extrême droitisation, donc oui, on le voit, la répression, enfin, les styles de répression évoluent, les échiquiers politiques évoluent, les technologies évoluent, donc la lutte évolue avec tout ça. Je ne sais pas si vous militez depuis longtemps, mais est-ce que du coup vous avez pu remarquer que la lutte s'adapte en fait avec l'évolution de tout ça ou pas?
Je pense qu'elle n'a pas le choix de s'adapter sur tout ça. On ne peut pas faire autrement. Vraiment dans la militance pure, ça fait 2 ans, mais sinon dans la culture et tout ça, ça fait un petit peu plus longtemps. Mais pour chaque moment, pour chaque situation dans l'année, que ce soit pendant les élections ou même pendant les vacances où il y a un petit peu moins, ou à des événements particuliers, il faut à chaque fois s'adapter. Il faut adapter la manière dont on va agir, dont on va réagir et toutes des choses comme ça. Et donc ça, c'est. Et je pense aussi qu'il y a un continuum, enfin une évolution plutôt dans les années. Mais je suis encore trop jeune pour pouvoir parler de ça, donc il faudrait demander à plus expérimenté que moi pour ça.
Moi, je suis un petit peu moins jeune et ça fait une vingtaine d'années quand même que je milite. Et je pense qu'on peut remarquer aussi quand même dans l'évolution, c'est de se dire que les méthodes sont peut-être pas toujours les mêmes, mais c'est surtout en fait qu'est-ce qu'on a envie, comment est-ce qu'on véhicule aussi les informations. On voit maintenant le pouvoir, par exemple, des GAFAM, etc. Et donc, je veux dire, on est tout le temps, même dans nos collectifs, c'est un espèce de truc dément où on se dit, mais en fait, on doit pas utiliser ça parce qu'en fait, si on utilise ça, ben, on fait marcher telle ou telle chose, etc. Et donc, ça fait partie aussi d'une évolution. Et quand on parle d'extrême droite et des fronts antifas, je pense que ce qui est important à dire aussi, c'est que quand on voit l'extrême droite, pour certaines personnes qui connaissent pas du tout, ils comprennent pas toujours pourquoi la réponse de lutter contre l'extrême droite, c'est un front antifa. Parce qu'on va vous dire, ben en fait, l'extrême droite, est-ce que c'est le fascisme? Ben non, vous luttez, on devrait appeler ça un front anti-extrême droite plutôt qu'un front antifa. Donc il faut réexpliquer vraiment l'historicité, ben un peu ce qu'on a fait avant. Mais aussi se dire qu'actuellement, l'extrême droite, elle séduit tellement par les réponses extrêmement simples qu'elle propose à monsieur, madame, tout le monde, qui se retrouvent pas dans plein de programmes politiques. Et donc, pour un problème complexe, elle va proposer une réponse simple à laquelle monsieur, madame, tout le monde va pouvoir s'identifier très facilement. Dans la lutte antifasciste, il y a déjà, ça vous l'avez compris, plein de sensibilités différentes, mais aussi, on essaie quand même d'aiguiser notre esprit critique tous et de se dire, mais comment est-ce qu'on peut répondre à telle ou telle question, que ça soit dans la défense des minorités, que ça soit dans plein de combats. Et donc, on a aussi et ça, je pense que ça fait partie de l'évolution aussi de ce qu'on pouvait dire avant, qui était beaucoup plus blanc, noir, etc., que maintenant, il faut amener toute une sorte de nuance, en fait, dans ce qu'on appelle déjà le fascisme, donc comment on lutte, comment on le défend, comment aussi on fait partie d'un front antifasciste quand on habite dans une ville, et puis comment est-ce qu'on fait vivre, je parlais pour mon exemple par exemple, un front antifasciste dans la province de Luxembourg, c'est des gens qui ont envie de lutter contre le fascisme, mais qui ont 150 kilomètres parfois entre deux villages. Alors comment est-ce qu'on fait pour, avec des sensibilités différentes, avec des situations géographiques et avec une réalité différente, plus rurale aussi. Et donc l'avantage, je pense, d'aujourd'hui, enfin en tout cas d'un festival comme Esperanza qui nous rassemble, c'est aussi déjà de se voir en vrai, mais de se dire comment est-ce que demain, moi je suis en tout cas demandeuse de me dire, mais demain comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va lutter ensemble avec toutes nos différences et toute cette évolution qui est présente à l'intérieur des fronts, mais aussi simplement dans la société, qui est quand même...
Oui, il faut repenser, on peut s'inspirer du passé, il y a eu des exemples de fronts antifa dans les années 90, il y a eu des exemples de fronts populaires dans les années 30, etc. Mais aujourd'hui, on n'est plus à la même époque, comme tu l'as dit, les GAFAM, etc., on est beaucoup plus sur Internet aussi. Et je pense qu'il y a aussi, oui, dans nos lieux de socialisation, la place des partis, des syndicats, voilà, qui sont parfois partie prenante de certains fronts antifa, pas forcément de tous, etc. Mais ce n'est plus qu'un acteur parmi d'autres, et donc il faut réinventer tout ça. Et je pense que, moi j'aime bien replacer, après tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais que la partie d'accélération de la droitisation, de la fascisation en cours, elle vient aussi répondre peut-être à 2011, 2012, 2010, les années comme ça où ça bouillonnait quand même pas mal. Il y avait pas mal de révolutions aussi dans les mondes arabes, les indignés, toute cette période-là où il y avait quand même un petit vent, c'était pas révolutionnaire, mais c'était quand même un gros progrès, en tout cas du camp des libertés, pour le dire très rapidement. Et je pense que ce soit au niveau féministe, au niveau antiraciste, etc., des victoires qui ont été prises, et on a un peu le backlash aussi, et donc je pense qu'il y a aussi une montée en confrontation de la société, et donc c'est un moment où beaucoup plus de gens sont politisés, en fait, vont avoir des avis, vont s'impliquer d'un côté ou de l'autre, et ça fait écho à d'autres parties de l'histoire, et donc on a intérêt à aller voir dans l'histoire, mais c'est pas des leçons qu'on peut réécrire, enfin reprendre comme ça, mot à mot. Il faut réinventer nos façons de lutter aujourd'hui.
Et savoir aussi, je pense que c'est important, pour moi c'est quelque chose de très important, c'est le pouvoir des mots, au fait, qu'on utilise, parce que quand on voit parfois dans certaines de nos luttes dire oui, bon, maintenant en Belgique on est en dictature, je pense qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on dit, parce que je pense que les gens qui vivent réellement dans des pays qui sont en dictature, c'est quand même pas tout à fait la même chose, et je sais que parfois dans les fronts on n'est pas toujours d'accord avec ça, mais pour avoir... Enfin, c'est pas une chance, mais pour avoir été dans certains de ces pays, je trouve qu'en Belgique, on n'est pas encore en dictature. Et donc c'est pour montrer un exemple, en fait, de choses qui sont parfois très difficiles à vivre, nous, dans des fronts, enfin, dans notre front, de personnes qui arrivent. Enfin, tu te rends pas compte, Dominique, nous, maintenant, ici, en Belgique, on est en dictature. Alors, il y a peut-être des petites choses qui arrivent, ok, d'accord, qui sont des mécanismes qui peuvent être utilisés en dictature, mais on peut quand même encore s'exprimer et on n'est pas torturé si on dit ce qu'on pense ou si on critique un chef d'État. Donc, je pense que c'est important aussi quand on lutte le pouvoir des mots.
On a beaucoup à apprendre aussi des pays
ouais,
qui sont à d'autres stades ou d'autres endroits que nous.
Ouais, et éviter d'aller jusqu'à leur niveau, quoi. C'est surtout ça. Et je pense que c'est ça qui peut faire peur et qui fait que...
Ouais.
Qui crispe un petit peu, quoi. Mais...
Je vous propose une petite respiration. On va faire une petite pause musicale. Ça va.
Radio Esperanza.
Made in France.
Okay.
Pas made in Taiwan. Ok. Je suis pas made in France quand je vois les étudiants devant le Crous faire la queue pour obtenir la moitié d'un casse-croûte. Encore un texte qu'on vilipende, ça faisait longtemps. Normal que je prenne les premiers coups si je suis toujours en avance sur mon temps. Je suis pas made in Algérie, des généraux. Un seul héros, c'est le peuple, il y aura jamais à changer les rôles. Je me sens algérien comme ceux qui ne l'étaient pas à la base. Jacques Vergès, Franz Fanon et la grand-mère d'Edith Piaf. Je suis pas made in Dubaï, là-bas y'a trop de chichi. Y'a que des connards d'exilés fiscaux riches du dropshipping. Je suis plus vieux que leur archipel sorti hier de sous terre. Avec leur super tower que des indiens soudèrent. Ils ont des mots, l'immense des parcs de jeux pour tout âge. Les bâtissants salissant de blast d'Ibn Battuta. Comme une boutique de CBD qu'on appelle Bob Marley. Les rues les plus violentes s'appellent Gandhi à ce qu'il paraît. J'suis pas made in Qatar, nique le foot et le soft power. La World Cup 2022 est pleine de sandposeurs. Donnez pas les deux Sri Lankais et Philippins. Mille vies venues d'un par conteneur comme parquet de filet d'Inde. J'suis pas made in Russia qui censure tous les podcasts. Je veux pas d'un président torché à la mauvaise vodka qui empoisonne ses opposants avec des neurotoxiques. Croire refaire l'image de son peuple à la chirurgie plastique. Je suis pas made in USA, made in America. Ils sont jamais retournés sur la lune, mais deux fois en Irak. Y'a eu du chemin de fait depuis que les Noirs luttèrent. Mais les rues les plus violentes sont celles qui portent le nom Martin Luther. À Thanksgiving, ils se souviennent des Indiens. En génocide, dans toutes les dindes, et passent au Black Friday le lendemain. Pas de calumet, allume les Noirs avec des armes de taille humaine. Pas besoin de détailler, c'est la mentale états-unienne. Je suis pas made in Africa et toute sa corruption. Vouloir être légal de l'Europe, c'est clairement manquer d'ambition. Où la misère est beaucoup mieux partagée que les richesses. Où y'a peut-être beaucoup moins de diplômés que de fichesses. Je suis pas made in Saoudia, ni de la Mecque, ni de Riyad. Qui font payer les vieillards, plus de 3K le pèlerinage. Pas made in El Madina. Si mon père m'a donné ce blaze, c'est pour honorer son sahab, pas pour surfer sur l'histoire. Made in France. Made in France. Made in France. Pur produit des pays pauvres. Je suis un palmier du pays de Caux. De la France périphérique comme Adama. Oublié comme Airbnb à Damas. Politiquement, je suis médiéniste de gauche. Entre un démon NOS et Pierre Desproges. Chaque fois que je rappe, y'a v'là les doses. Chaque fois que je prends position, je perds les proches. J'ai comme une envie de prendre les valeurs actuelles. Chez qui y'a plus de connards que de prix Nobel. Vous serez prêts à vendre du papier à des arbres. Même les poissons ont la honte d'être emballés dans vos pages. Ils sont en train de faire de nous leur pire ennemi. Quand ils s'adressent à la nous comme pépita dans pyramide. Prends des coups de matraque dans le pif comme des tests antigéniques. Si tu louches, t'es qu'un islamiste. Au mieux un indigéniste. Pendant qu'ils vendent des rafales au régime des Émirats. Ou bien l'essence de Total pour les patrons de la jeune birmane. Pendant que Pépé peut plus payer, sont plus mal médicalisés. Si j'étais personnel soignant, je me serais déjà radicalisé. Ils reculent l'âge de la retraite, mais avancent l'âge de la mort. Disent que c'est nous qu'à fond on meurt. Trop vite gerbé jusqu'à l'aurore. Est-ce que l'État nous protège ou l'État se protège de nous? J'sais plus si la France ça s'épouse. Si on s'en passe ou on s'épouse. J'sais plus si je dois militer ou au contraire me limiter. Est-ce que mes repas de mille sont des réunions en non mixité? Pour me sentir intégré, j'ai rien trouvé d'autre qu'un défaut. Quand le français perd sa beauté, alors il défigure les autres.
Radio Esperanza.
Eh bien, on vient d'écouter Made in France, qu'on va retrouver ce soir sur le festival Esperanza à 23h45 au Jardin. Steph,
oui, oui. Juste un petit clin d'œil parce que Médine avait été invité il y a 2-3 ans à Verviers et il y a une bande. Alors on n'est pas en dictature, mais il y a quand même des gens qui ont essayé de le censurer, donc de le déprogrammer. Et les assos et tout ont très bien réagi. Le collectif Antifa de Verviers n'existait pas encore à ce moment-là. Et donc voilà, ça fait plaisir de voir qu'il est programmé ici à Esperanza, le grand Médine.
Merci.
Merci pour cette petite anecdote. On a parlé de plein de choses déjà, mais là, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de parler du coup de vos méthodes de lutte au sein des fronts. Vous aviez dit que vous proposiez quand même pas mal de styles, enfin de moyens de militer. Qu'est-ce que vous proposez ? Comment ça se passe au sein des fronts ?
Comme tu l'as dit, il y a différents moyens en fonction de la capacité de chacun et la volonté de chacun, c'est clair. Maintenant, mettre un point en avant, lutter contre le fascisme et l'extrême droite, c'est quelque chose qui est des fois difficile, soit pour personnellement ou autre. Donc on ne va pas demander à tout le monde en fonction de chacun les risques qu'ils seront prêts à prendre. Donc un des premiers points par rapport à ça, moi je trouve important, c'est être capable d'organiser progressivement des comités d'autodéfense antifascistes. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on voit des attaques qui commencent à arriver par certains groupuscules fascisants qui vont essayer de bloquer des conférences, des médias, des manifestations. Et donc malheureusement, ça nécessite une réponse des fois qui doit être violente. En tant que réponse à la violence, on a besoin d'être violent et d'être capable de s'autodéfendre, mais vraiment dans un cadre de légitime défense. C'est important de le mettre. Après, il y a plein d'autres, angles d'attaque. L'éducation permanente, c'est quelque chose de très important parce qu'il n'y a rien à faire. Comme on l'explique, l'extrême droite et le fascisme, ça se nourrit d'abord sur la haine et sur les discours de haine qui sont propagés par les médias et les politiques. Donc on a un rôle à jouer pour essayer de contrecarrer ces discours en expliquant aux gens, sans être condescendant bien évidemment, surtout qu'on va vers les classes populaires ou les quartiers populaires, il faut absolument bannir la condescendance. Et c'est quelque chose d'assez difficile en général, je trouve encore, entre les fronts Antifa et la gauche radicale, de réussir à connecter avec certains quartiers populaires. Et c'est un truc sur lequel on doit beaucoup travailler. Après, bien évidemment, il y a l'organisation de blocage d'actions antifascistes. Pour citer un exemple récent, Aline a parlé tout à l'heure de la conférence de Jordan Bardella qu'on a bloquée l'année dernière. Il y a MCC qui est un lobby financé par Viktor Orban, donc l'extrême droite hongroise, qui a organisé une réunion en mai à Bruxelles. Nous, on a bloqué, on a fait pression sur les hôtels qui devaient les accueillir. Et donc on n'a pas réussi à empêcher, mais il y a quand même une pression derrière qui a été construite et on a bloqué partiellement leur meeting. Donc c'est ce genre d'action en fait qu'on doit aussi être capable de mettre en place et d'être réactif là-dessus. C'est pour ça qu'être organisé et solidaire, c'est important, et avoir également des capacités de communication. Et également, un dernier petit point, il y a le côté culture, donc être à des festivals comme ça, organiser des ciné-débats, organiser ce genre de choses, et la communication. On a dit tout à l'heure, on parlait du changement des méthodes. Aujourd'hui, il n'y a rien à faire. La communication, elle passe beaucoup par les réseaux sociaux, par Internet. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on doit progresser. Moi, ça fait 15 ans que je milite. Et c'est clair qu'en 2009, quand j'ai commencé à militer, l'importance des réseaux sociaux, elle n'était pas aussi grande. Donc, on invite vraiment les gens qui ont envie de militer. On a besoin de militants qui sont capables de rester dans leur chambre, dans leur intérieur, pour nous créer du contenu, pour débunker. On a besoin de gens qui sont capables physiquement de descendre dans la rue pour aller bloquer des actions, pour aller défendre contre les fascistes. Des gens qui ont des bonnes capacités didactiques pour aller enseigner et apprendre. Donc il y a vraiment, tout le monde peut trouver sa place et c'est vraiment important qu'on se retrouve tous là-dedans.
Et pour rebondir sur ce que tu dis, parce que en gros, c'est plus ou moins pareil chez nous, mais je pense que ce qui est important aussi d'ajouter, c'est de pouvoir en fait venir appuyer les actions des autres. Donc quand vraiment il y a une action qui se fait, que ça soit à Verviers, à Bruxelles, etc., que les fronts puissent se rejoindre aussi pour pouvoir appuyer les actions des uns et des autres. Et alors un point qui est important aussi dans la lutte, c'est quand même aussi l'infiltration, parce que c'est bien de se battre contre quelqu'un ou de lutter, mais c'est aussi comment est-ce qu'on connaît son adversaire. Et donc dans les formes de lutte, il y a aussi tout ce qui est vraiment l'infiltration, donc c'est-à-dire vraiment aller là où on a envie de lutter et pouvoir voir ce qui s'y passe, où ça s'organise, comment ça s'organise. Et ce sont quand même en général des mouvements qui mettent beaucoup de pognon dans les réseaux sociaux, et pour notre part, en tout cas pour le Luxembourg, c'est quelque chose pour lequel on sait qu'on est assez faible. Et donc on invite d'ailleurs tous ceux qui auront envie de rejoindre le front pour ces points-là, parce que c'est vrai que chez nous c'est un peu une difficulté parfois. Mais je pense que c'est important d'appuyer aussi le fait que même si les fronts sont différents, il faut vraiment qu'on puisse à l'avenir en tout cas continuer à renforcer les actions, que ce soit des manifs, parce qu'il faut aussi tout le temps être en veille, hein, parce qu'il y a l'infiltration, il y a l'éducation permanente, mais il y a aussi vraiment, en tout cas chez nous, il y a vraiment un groupe de veille qui est tout le temps en veille de savoir ce qui va se passer, où qui va y aller. Et alors aussi, on propose, nous, des, des formations de désobéissance civile, parce que certaines personnes en fait qui rejoignent le front ont pas toujours la même connaissance au niveau de la culture antifasciste, mais aussi ce qu'on peut faire, quels risques on peut prendre aussi au niveau de la police. Et donc c'est important pour nous dans un premier temps, en tout cas, c'est la formation, et puis aussi de travailler comme un peu des parrains, donc c'est-à-dire que quelqu'un qui veut rejoindre la lutte antifasciste, ben il a un petit peu screené quand même au départ pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir lutter ensemble, parce que si nous on infiltre, on peut aussi évidemment être infiltré.
Oui, je voulais ajouter, donc il y a le modèle des fronts, peut-être sur le modèle du Front Antifa de Liège, qui a été un des premiers à être créé, je pense, qui rassemble plein d'assos, des syndicats et des individus, des collectifs qui se mettent ensemble. À Verviers, nous, on a vu les choses vraiment, on a essayé de s'adapter au terrain et de voir un peu, qu'est-ce qui peut être fait. À Verviers, il y a des assos qui font déjà un travail formidable et qui ont l'habitude de travailler ensemble, etc. Et donc, nous, on a plutôt eu envie de créer un collectif. Et donc, nous, on est quelques citoyennes, citoyens à s'être mis ensemble et à s'être demandé qu'est-ce qu'on peut faire en plus qui n'est pas fait par les assos. Et donc, nous, on va plutôt, au début, on s'est dit, en fait, faire des événements dans la vie réelle. On n'est pas du tout sur Internet, mais beaucoup plus créer des lieux de socialisation. Après, parfois, on va mettre des affiches aussi dans la vie réelle, dans les murs. Et donc, ça fait aussi plaisir de revenir à des trucs concrets ou d'aller à des manifs, des luttes. On a pris aussi contact avec des collectifs antifa de l'autre côté des frontières. On n'est pas loin de l'Allemagne, on n'est pas loin des Pays-Bas aussi. Rencontrés, on a fait des manifs communes aussi contre les frontières, en tout cas contre la fermeture des frontières. Donc, c'est... Voilà, de petit en petit, on n'est pas obligé d'être sur tous les fronts. Enfin, on sait bien, nous, collectif antifa, on ne va pas être réactif sur tous les bazars et il peut se passer des trucs nazes dans notre région sans qu'on soit sur la balle, mais on met nos énergies là où elles sont. Et on peut aussi penser à la lutte antifa comme la création de plein de petits groupes. On n'est pas obligé de rejoindre un truc déjà existant. On peut aussi se mettre avec quelques copains et se dire, nous, on a envie de faire ça, on a envie d'écrire des textes, on a envie de... Voilà, de...
Et d'être présent dans l'espace public, quoi, je veux dire, vous montrer qu'on existe, hein, parce que...
Il y a plein de façons différentes de lutter, en tout cas.
Et donc, vous avez plein de choses à proposer, c'est super. Et comment les gens peuvent intégrer tout ça? Comment est-ce qu'ils peuvent vous trouver, vous rejoindre? Est-ce qu'il y a des réunions, des assemblées qui sont proposées au public?
Alors, si vous êtes à Esperanza, venez nous voir au stand et on discutera et on s'échangera les coordonnées.
Ouais, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire, c'est venir au stand d'Antifa Esperanza. Il y a la CAP qui a fait un travail vraiment formidable au niveau de la coordination. Donc il y a des petits formulaires où vous pouvez laisser vos coordonnées, peu importe la région où vous êtes. Après, on s'arrangera entre nous pour dispatcher en fait et que chacun puisse retrouver en fait ceux qui seraient plus susceptibles d'aller à Bruxelles, à Liège, à Verviers, à Namur ou dans le Luxembourg. Donc il faut vraiment passer nous voir, c'est une chance qu'on soit là.
Et comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui aussi sur les réseaux sociaux ou Internet, vous pouvez nous retrouver facilement. Nous, à Bruxelles, on organise une assemblée générale tous les deux mois. Donc, n'hésitez pas à venir à une de nos assemblées générales, ou bien participer aux actions, etc., qui sont très communiquées sur tous nos réseaux. Et donc, c'est un moyen aussi de nous rejoindre et de faire gonfler la lutte antifasciste.
Rejoignez la résistance.
Résiste, milite, existe.
Avant de conclure, Amar, est-ce que tu peux un peu nous parler de la convergence des luttes?
Oui, donc la convergence des luttes. En fait, comme on l'a déjà touché quelques mots tout à l'heure, la lutte antifasciste, c'est une lutte qui se concentre principalement contre la fascisation et l'extrême droite. On en a parlé tout à l'heure. Mais il faut comprendre que sous ce chapeau, il y a plein de choses. La lutte contre l'extrême droite, c'est la lutte contre toutes les violences, contre les oppressions. Donc les violences sexistes, les violences antiracistes, les violences racistes, les violences homophobes, LGBTQIA+, etc. Et donc c'est vraiment important pour moi de comprendre que quand on est antifa, on lutte contre tout ça également. Et que c'est vraiment une convergence qui doit se faire. C'est pour ça qu'on accueille également tous les collectifs féministes, antiracistes, décoloniaux, qui luttent contre l'antisémitisme, etc., qui veulent se joindre à nous. C'est vraiment très important. Mais il faut aussi comprendre que la lutte antifasciste, elle ne s'arrête pas aux frontières de la Belgique ou de l'Union européenne. C'est une lutte internationaliste. Et donc c'est vraiment important aussi de clarifier, surtout je pense quand on voit aujourd'hui ce qui se passe en Palestine ou dans d'autres pays, où en fait on a sans doute aujourd'hui avec le gouvernement Netanyahou un des gouvernements qui se rapproche le plus du fascisme dans le monde, parce qu'il est vraiment en train de détruire complètement toute une classe ouvrière aujourd'hui à Gaza et de coloniser encore plus la Cisjordanie. Et donc ça montre vraiment à quel point la lutte, elle doit être internationale et intersectionnelle. Et c'est vraiment quelque chose de très important dans la lutte antifasciste. Et dernier petit mot, Le dénominateur commun de tout ça, selon moi, c'est le système capitaliste. Parce qu'en fait, le système capitaliste, c'est un système qui crée des inégalités, qui détruit des vies, qui opprime des gens parce qu'il en a besoin pour fonctionner. Si on a, c'est la base du capitalisme, c'est être capable de maintenir les richesses dans les mains d'une minorité. Et pour qu'il y ait des ultra-riches, il faut qu'il y ait des ultra-pauvres. Et il faut qu'il y ait des ultra-opprimés, etc. Et donc, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on dit, si t'es antifasciste, tu dois être anticapitaliste. Et moi, c'est un peu un message que j'adresse à la social-démocratie, aux partis qui sont au gouvernement. C'est très personnel. Mais moi, je veux pas voir le PS aujourd'hui avec nous dans les fronts antifa, parce que j'estime que le PS, avec toutes ces mesures qu'il a depuis 30, 40 ans, ils ont un peu pavé la voie aujourd'hui à la montée de Georges Lebouchet, à la montée de l'extrême droite, etc.
Ouais, moi, j'aimerais après, bien te poser une question. Pardon, je t'interromps, Stéphane.
Non, juste préciser qu'il y a des débats là-dessus et que voilà, t'exprimes une position personnelle.
Oui, bien sûr.
Oui, mais j'aimerais bien rebondir là-dessus. Est-ce que justement, tu parlais des extrêmement riches, extrêmement pauvres, mais est-ce que c'est pas une des conséquences du capitalisme ou tu crois que c'est l'essence même? J'ai pas très bien compris cette phrase.
En fait, le capitalisme, le terme capitalisme, c'est capital. Donc, c'est-à-dire des gens qui sont capables, avec leur capital, de générer du profit. Et donc, ça veut dire je possède des capitaux, c'est-à-dire je possède des immeubles, des appartements, des usines. Et avec ces capitaux, je profite du travail des autres. Quand je suis un patron d'entreprise, j'exploite la production et la plus-value de mes salariés pour générer du profit. Quand je possède des immeubles, j'exploite le travail pour gagner un loyer. Et donc, en fait, pour ça, ça veut dire que dans un sens, j'exploite le travail de tout un pan de la population pour être capable de générer du profit. Et c'est vraiment le fonctionnement de la société de classe qui existait déjà avec le capitalisme avant, avec le servage, avec le féodalisme. Aujourd'hui, on vit sous ce qu'on appelle le capitalisme. Et moi, en fait, l'objectif in fine, je suis révolutionnaire, l'objectif in fine, c'est de renverser cette société de classe. Tant qu'on aura une société de classe qui, en fait, fait qu'il va toujours avoir une classe d'opprimés et une classe d'oppresseurs qui profitent de ça et d'exploiteurs, tant qu'on sera dans cette société de classe, on aura des dérives fascisantes, on aura des dérives d'extrême droite. Parce que lorsque le capitalisme a peur, et on l'a dit tout à l'heure avec les révolutions qui commencent, il va mettre en place de l'autoritarisme, il va mettre en place l'extrême droite, et in fine, il peut arriver à mettre en place le fascisme pour mater les potentiels révolutionnaires qui existent dans la société.
Moi, je sais qu'on arrive à la fin, donc je voudrais quand même juste ajouter une petite chose. Quand on dit qu'en fait, il faut nous rejoindre, moi, je trouve que ce qui serait sympa aussi dans la lutte antifa, c'est qu'il y ait encore plus de nanas, qu'il y ait plus de minorités, qu'il y ait plus de personnes qui soient racisées, etc. Parce qu'on est quand même souvent un petit peu dans le même schéma. Et donc, si toutes ces personnes, en fait, ont envie de nous rejoindre, on ne fait pas peur, on ne mord pas, on ne mange pas. Mais c'est important, je pense, de pouvoir le dire aussi, quoi. C'est vraiment bienvenu à tout le monde. Et en tout cas, nous, on est demandeurs qu'il y ait beaucoup plus encore de diversité dans les fronts antifa.
Ouais, moi, j'ai vraiment envie d'ajouter un truc. On dit rejoignez-nous, mais c'est pour moi, quand on lutte contre le fascisme, contre la fascisation ou l'extrême droite, il y a plein de façons de le faire. Et les antifas peuvent aussi aller rejoindre d'autres luttes. C'est pas toujours aux gens de nous rejoindre.
Non.
Et donc, une des choses qu'on a fait au collectif antifa, c'est d'aller aussi soutenir les mouvements pour la Palestine, etc. Et donc, aller aussi ailleurs, organiser des solidarités, organiser des toutes des luttes en fait pour l'émancipation, qu'elles soient sur un sujet ou l'autre. Tout ça, ça fait partie de la lutte antifa. Et donc, pour moi, il n'y a pas vraiment besoin de venir à un front antifa pour se dire antifasciste. Dès que tu t'organises avec tes voisins pour faire un truc qui va vers l'émancipation, tu fais partie, en fait, du camp. Pour moi, j'ai cette vision large et un peu d'humilité. On fait ce qu'on peut à notre niveau, mais il y a plein d'autres façons de le faire. Et des collectifs qui le font bien avant que nous, on soit mobilisés aussi.
Merci beaucoup pour ces petits mots de la fin. Amar, est-ce que tu veux faire ton petit mot de la fin aussi?
Comme on l'a dit, hein, venez, on a besoin de force, c'est important, c'est essentiel, c'est vital, littéralement, pour beaucoup de gens aujourd'hui, dans nos sociétés et partout dans le monde. Il faut se battre, après, bien sûr, encore une fois, chacun selon ses capacités, selon son espace. Et également, on en arrive rapidement à toucher un mot, on a besoin de moyens financiers, malheureusement. On vit dans une société capitaliste où l'argent est le nerf de la guerre, donc même si vous n'êtes pas capable de vous impliquer avec le temps, si vous êtes capable de donner un peu d'argent au front, vous ou autre, donnez. Venez acheter du matériel à notre stand. Ça nous permet en fait de générer des fonds, que ce soit pour produire du matériel, pour faire de la pub sur les réseaux sociaux. On en a parlé également. Et donc voilà, et no pasaran jusqu'au bout.
Merci beaucoup. On va clôturer cette émission ainsi. Merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir discuté avec nous. Merci à Zou d'avoir co-animé cette discussion.
Merci Aline, c'était un
avec moi. Et donc, c'était Radio Esperanza, la radio éphémère du festival Esperanza. Et on conclut cette émission sur une petite chanson de circonstance, Bella Ciao de Goran Bregovic. Je sais pas si je le dis bien.
Merci.
Radio
Merci
à Esperanza.
Vous. Merci.
Merci.
Chanter une chanson que une chanson de résistance de celle de deuxième guerre mondiale.
Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato.
Radio Esperanza décolonise les ondes.
Radio Esperanza.